Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. On va voir que c'est une œuvre salutaire pour le monde entier. C'est quelque chose de grandiose. Je pense que si on pense à la fête de Noël puis la fête de Pâques, la plus importante où ce qu'on devrait se réjouir, je pense, c'est Pâques. Parce que Jésus, s'il est venu sur la terre, il est venu. Ça, c'est un fait, c'est historique. Il est venu sur la terre. C'est sûr que c'est à correct qu'il vienne. Mais ce qu'il a fait à la fin de sa vie, c'est ça qui était pour accorder le salut à l'humanité. C'est son sacrifice, c'est son l'offrande de lui-même. Le Créateur s'est offert en sacrifice pour expier les péchés de l'humanité. C'est ça qui était le « wow » de l'affaire. Voir Dieu, c'est à « wow », puis voir des miracles, c'est à « wow ». Mais qu'il l'ait accompli le salut, puis que là, c'est fait, mais ça mérite d'être fêté. Dans l'Ancien Testament, la fête de Pâques, c'est une fête perpétuelle. C'est une fête qui était chantée, célébrée pendant des siècles et des siècles et des siècles. Ça a été célébré parmi le peuple juif, la fête de Pâques. Elle n'avait pas le même sens que nous, mais ça a pris comme une tournure. Allez, lorsque Jésus l'a fait avec ses disciples, puis qu'il en est mort tout de suite après. Après ça, la fête de Pâques, elle a eu un autre sens. Je vais vous en parler un peu. Pour comprendre l'origine de cette fête-là, et pourquoi on devrait la fêter, bien entendu. Pâques, c'est une fête, puis nous voulons célébrer Dieu dans tout ça. On veut célébrer l'œuvre qui libère l'humanité. C'est ça qui est la Pâques. C'est l'œuvre qui a été accomplie pour libérer l'humanité tout entière. Dieu, il a accompli ce qui était nécessaire afin que tout le monde sur cette planète puisse être sauvé. C'est pas tout le monde qui l'a saisi, bien entendu, mais c'était offert pour tout le monde. On le voit, on l'entend souvent dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Vous êtes là ce matin, vous faites partie des quiconques. Tous ceux qui vivent sur cette planète font partie des quiconques. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Pâques, c'est le don de Dieu pour tous les hommes. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Il a envoyé son Fils, c'était correct. Mais la manifestation de son amour est lorsqu'il a donné sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Ce que n'est pas Pâques, parce qu'il faut le savoir, on entend toutes sortes d'idées sur Pâques, c'est surtout pas la fête du lapin en chocolat. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est fêté. Les poules en chocolat, les œufs de Pâques, les lapins de Pâques, puis on essaye de mettre des symboles. Au début, ça avait peut-être l'air biblique, là, mais je vois pas où. Il faut que tu te forces beaucoup pour comprendre un lapin en chocolat, puis Pâques. Un lapin qui pond des œufs. On voit que là, ça a tourné à fête monétaire. Fête. Oui, il y a une fête, mais ils ne savent plus pourquoi que c'est là. C'est comme la fête de Noël, on en a perdu le sens, que c'était la naissance du Sauveur. Puis il y a aussi les dépenses en cadeaux, parce qu'à Pâques, il y en a qui dépensent des gros cadeaux. Puis c'est ça qui est une fête commerciale aujourd'hui. C'est pas ça, Pâques. Pâques, c'est pas le chocolat, c'est pas les cadeaux, puis encore moins, c'est pas une occasion de se saouler. Parce qu'il y en a qui attendent des fêtes pour se saouler. Puis là, ils se réunissent en famille, puis les caisses de 24 de bière, ils s'empilent. Tout le monde boit. Mais c'est pas ça, fêter la Pâque. Celui qui a institué la Pâque, c'est pas l'Église catholique, bien qu'aujourd'hui, on fête la Pâque dans la date que l'Église catholique l'a choisie. Mais celui qui a institué la Pâque, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, allez faire cela, puis ça va être une fête perpétuelle. C'est une fête qui ne devait jamais s'arrêter pour le peuple juif. Tous ceux qui voulaient pratiquer la loi devaient pratiquer la fête de Pâques comme étant une chose qui fait partie de leur foi. Pâques, c'est une fête sainte. C'est une sainte convocation. C'était quelque chose de sacré dans le temps des Juifs. C'était une de les plus grandes raisons de se réjouir en tant que Juifs. Parce que c'était la journée de Pâques que Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte. C'était quelque chose qui devait se fêter perpétuellement. C'est une fête donnée par Dieu, une sainte convocation. C'est une réunion sainte où ce que les gens ne devaient pas travailler, devaient se concentrer à fêter leur libération. C'était, comme on dit aussi, c'était une fête, même pour les Juifs, d'une preuve de l'amour de Dieu pour ses créatures. Parce que le peuple juif n'a bénéficié de leur délivrance. Ils ont vu là-dedans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, mais en même temps, la sévérité pour ceux qui ne croient pas. Ça, on va le comprendre en étudiant quelques passages là-dessus. Puis pour comprendre la Pâque, mais il faut que tu remontes dans le temps de Jésus, dans le temps de Moïse, quand Dieu il a libéré, délivré le peuple qui était esclave en Égypte, le peuple d'Israël. Ils ont vécu 400 ans en Égypte, puis ils étaient devenus comme esclaves des Égyptiens. Puis les Égyptiens, ils s'en servaient pour faire de la brique puis construire des villes. Ils ont construit des immenses villes par le travail des Juifs qui étaient assujettis à des travaux difficiles, puis ils étaient abusés, ils étaient rendus des esclaves pour les Égyptiens. Puis c'était le peuple choisi par Dieu parce que, pas à cause que le peuple juif était le peuple juif qui ont été choisis, c'est à cause qu'ils ont été choisis à cause que Dieu a fait une promesse à quelqu'un que Dieu aimait, Abraham. Puis c'est Abraham qui a reçu la promesse qu'il y aura une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Puis à cause d'Abraham, Dieu a conduit le peuple juif dans un état où ce qui était difficile de vivre, il était en esclavage, c'était dur, une rude servitude, puis Dieu l'avait annoncé d'avance à Abraham que sa descendance serait aux prises d'une rude servitude, mais que Dieu était pour en délivrer avec son bras puissant. Il était pour manifester sa gloire, puis tirer sa gloire de ce peuple-là. Dieu a choisi ce peuple-là pour manifester sa gloire dans ce monde. Parce que Dieu se cherche toujours des gens pour manifester sa gloire. Il le fait encore aujourd'hui. Il en cherche encore pour manifester sa gloire. Là, le peuple juif, il est en esclavage. Puis là, c'était loin d'être là, de glorifier Dieu. Il ne connaissait même pas Dieu, même s'il savait que Dieu existait. Abraham avait transmis le message, sa foi, mais au bout de 400 ans, puis là, s'il n'y a pas d'église, il n'y a pas rien pour répandre les pensées de Dieu. Fait qu'il y en a qui criaient à Dieu, puis il y en a d'autres, mais ils étaient esclaves des dieux égyptiens. Ils servaient les dieux égyptiens. Puis là, le peuple était sous de dures servitudes, puis là, il criait à Dieu pour certaines personnes. Puis Dieu a entendu, puis là, Dieu avait fixé un jour que c'était pour être 400 ans qui était pour être dans ces travaux-là. C'était dit d'avance à Abraham. Puis là, Dieu il a envoyé finalement, quand c'est venu le temps, un libérateur. Il a choisi un juif, mais qui avait toute la connaissance égyptienne, toute l'influence, la connaissance, l'enseignement, puis les bagages des Égyptiens. Mais il ne s'est pas servi de ça. Il a emmené ce gars-là 40 ans dans le désert pour le former, pour lui apprendre à dépendre de Dieu. Il ne voulait pas qu'il aille avec ses forces à lui. Il voulait qu'il aille avec, en s'attendant à ce que Dieu fasse quelque chose. Puis, il était 40 ans dans le désert, puis après ça, il a été renvoyé pour aller délivrer le peuple. Puis là, il s'est passé des signes, des miracles incroyables, comme qui ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'humanité. Dieu a manifesté des plaies incroyables sur le peuple, vous écouterez le film « Les 10 plaies d'Égypte », là, ou les 10 commandements, mais tu vois là-dedans les 10 plaies d'Égypte. Vous pouvez aller le lire dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il raconte toute l'histoire, puis comment ça s'est déroulé. Puis c'est ça. Vous êtes mieux d'aller voir lire votre Bible que d'écouter le film, parce que même dans le film, vous allez risquer de vous faire mêler un peu. Mais là, vous allez voir dans la Bible tout ce que Dieu a fait comme signe, prodige, miracle, des choses incroyables que même les magiciens dans plus puissance n'étaient pas capables de répéter ces miracles-là. Puis là, le Seigneur a frappé durement les Égyptiens dans le but que les Égyptiens laissent aller le peuple. Dieu y appelait son peuple à sortir de l'esclavage de l'Égypte. Il voulait les emmener dans la terre promise. Il a dit au peuple des Égyptiens, il dit là, vous allez les laisser partir. Les autres ne voulaient pas. Fait que dans l'argumentation, Dieu avait des manières de convaincre assez impressionnantes. Fait qu'il était mieux d'écouter. Jusqu'à temps qu'arrive la 10e plaie d'Égypte, qui était une plaie terrible. On va aller lire ça dans Exode 12, les versets 5 à 7. Là, le Dieu nous a dit de se préparer pour la 10e plaie. C'était pas quelque chose qu'il était pour se passer puis que tout le monde restait inactif. Non. Ceux qui voulaient être épargnés de la 10e plaie, même si ça serait un juif, ou un Égyptien, tout le monde avait accès d'écouter Dieu, de croire à Dieu, puis de le faire, pour échapper à la 10e plaie. Mais pour échapper à la 10e plaie, il nous a dit que chacun s'ajette, parce que les Égyptiens n'étaient pas des éleveurs de moutons, mais les Juifs étaient des éleveurs d'animaux, de bétail. Là, il nous a dit, vous allez tout le monde prendre un agneau. On va aller lire ce passage-là, dans Exode 12, verset 5. « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, c'est un petit d'une chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. » Ça, c'était le premier mois de l'année pour eux dans ce temps-là. C'était le mois de Nissan. Puis pour nous, ça tombe le 22 avril. Le mois prochain, le mois de 14 de Nissan, la vraie journée que Dieu nous a demandé. Le 14e jour, c'était le 14 de Nissan, ça tombe le 22 avril pour nous. Puis toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Il fallait qu'il l'offre en sacrifice à Dieu, puis il tranchait la gorge, enlevait ça, puis après ça, le faire cuire. On prendra de son sang, puis on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où l'on mangera. Fait que là, il fallait qu'il saigne l'animal, juste avant que ça arrive. Il prend le sang, puis il prenait des feuilles, une petite touffe de feuilles, trempe ça dans le sang, puis il beurra le cadrage de la porte de leur maison. Les deux côtés et il faisait le tour, comme il beurrait tout du sang vu de l'extérieur. Dieu, il voulait faire quelque chose de frappant cette journée-là. Un miracle qui toucherait toutes les familles qui n'ont pas de sang sur les cadrages. Il fallait que les gens aient la foi en ce que Dieu leur demande. Dieu leur demande, vous allez mettre du sang, puis moi, mais que je passe, je vais voir le sang. Puis vous allez être épargnés. La plaie que Dieu voulait faire, c'est de faire mourir le premier-né de chaque famille qui n'aura pas de sang sur son cadrage. Le premier-né était pour mourir. Que tu sois un juif, que tu sois un égyptien, peu importe ceux qui habitaient à ce territoire-là, peu importe la race que tu étais là, fallait que tu obéisses à Dieu, puis mais si tu voulais pas perdre ton premier-né, fallait que tu mettes du sang, puis tu obéisses à Dieu, puis tu suives sa consigne. Voyez-vous? C'est là que la foi des gens a été mise à l'épreuve. Parce que là, Dieu leur demande premièrement de dépenser de l'argent, faire un sacrifice comme ce qu'il a demandé de le faire, fallait qu'ils se réunissent toute leur famille. S'il n'y avait pas assez de monde pour se réunir dans leur famille, ils pouvaient prendre le voisin le plus proche, puis se réunir ensemble. Il fallait qu'ils fassent cuire l'agneau dans un seul morceau, pas vider à rien. Puis il fallait qu'ils mangent tout. Puis s'il restait quelque chose à la fin du matin, s'il restait quelque chose, ils pouvaient faire brûler le restant. Mais il fallait aussi qu'ils soient habillés, fallait qu'il y ait une ceinture autour de leur rein, avec le bâton dans la main, prêt à partir. Puis là, ils faisaient ça à la hâte, comme si ça presse. On fait ça vite. On mange, on sacrifie l'agneau, on beurre le cadrage, puis on s'habille, puis on est prêt à partir comme si on est pour la hâte. Quand Dieu leur a dit ça, ils ne savaient pas pourquoi, c'est la première fois que ça arrivait, mais Dieu avait quand même dit de se préparer. Parce que même que ça arrive, cette journée-là, que l'ange était pour passer, l'ange exterminateur qui était pour passer au-dessus des maisons, peu importe la maison que c'était, s'il y avait du sang, la maison était épargnée, s'il n'y avait pas de sang sur le cadrage, la famille se faisait frapper, puis le premier-né de chaque maison mourait, le premier-né des enfants, comme le premier-né des animaux. Le sang était le signe du salut. S'il y a du sang, t'es sauvé. Pas de sang, tu viens de te faire frapper par Dieu. Prête, pas prête, quand l'ange de Dieu passe, faut que tu sois prête, sinon t'as la conséquence. Le sang sur les poteaux était la manifestation de la foi des Juifs. Si la personne qui était là, ouah, voyons donc si Dieu va faire ça, voyons donc, ouah, ouah. Puis on s'ostine avec la révélation qui a été donnée. Là, il s'ostine puis il ne veut pas le faire. Ben, il y en avait des conséquences. Peu importe comment tu t'appelles, ça n'a pas rapport à ton statut, ça n'a pas rapport si tu es riche ou pauvre, ça n'a pas rapport à ta langue, ta race. Tu es là, Dieu te dit, ceux qui sont là, mettez du sang sur vos condrages, ça va être un signe. C'est le sang qui va vous faire qu'on va. Je vais voir le sang. Je vais voir que vous aviez la foi dans ce que j'ai déclaré, puis vous avez été, vous êtes couverts, puis sous le sang, vous êtes protégés. Gloire à Dieu. Protégés du jugement de Dieu qui s'abat sur les familles et à faire périr le premier-né de tous ceux qui n'avaient pas le sang. Dieu épargnerait de la dixième plaie tous ceux qui seraient sous le couvert du sang de l'agneau. Exode 12, verset 12 à 14. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, c'est Dieu qui parle, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, puis je passerai par-dessus vous. À cause du sang, Dieu passait par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays. C'est ça qui est le sens du mot « Pauk » en anglais. C'est « pass over ». Passer par-dessus. Dieu passait par-dessus la maison qui avait du sang sur son cadrage. Puis, ceux qui étaient sous le sang, ils étaient sous la protection divine. Gloire à Dieu. Ça, ça avait un sens spirituel. Les Juifs, ils ont fêté cette fête-là probablement pendant 1500 ans suite à cet événement-là. 1500 ans jusqu'à la venue du Messie, là, avec l'idée qu'à chaque fois qu'il faisait la Pâque, il se mettait une ceinture, puis il fallait qu'il sacrifie un agneau en sacrifice, il prenait le sang, il beurrait le cadrage, puis c'était en répétition, pendant 1500 ans. Eux autres se rappelaient de leur délivrance qu'ils ont eue, parce que cette journée-là, Dieu a frappé les Égyptiens, puis tous les premiers-nés qui n'avaient pas le sang sont décédés. Ça a été avec de grandes larmes, puis des cris, puis de la douleur que le peuple d'Égypte a laissé partir, le peuple d'Israël, puis lui a dit, allez-vous-en, ils ont été poussés à s'en aller, ils étaient plus capables, là, ça faisait 10 plaies incroyables, puis la dixième, mais c'était le premier-né de leur famille, il y avait des morts dans toutes les maisons, même dans celle du Pharaon, puis là, c'était... Vous sortez d'ici, puis ça presse. Fait que c'était une grande libération pour le peuple d'Israël de sortir à la hâte. C'est arrivé rapidement, pif, paf, puis ah ouais, go, on part. Puis là, on regarde pas en arrière, puis il a retourné. On regarde en avant, puis on s'en va vers la terre promise.
Amen.
Amen. Puis pendant 1500 ans, ils ont fêté cette fête-là pour se rappeler comment est-ce que Dieu avait accordé cette grande délivrance. Sauf, Dieu avait un autre plan dans tout cela, c'est de préparer le monde spirituellement, parce que la loi de l'Ancien Testament, c'est une ombre des choses à venir. Fait que l'Ancien Testament, c'était pour démontrer une prophétie extraordinaire, que nous, on la connaît aujourd'hui parce qu'on est 2000 ans plus tard, mais il s'est passé un événement, voilà 2000 ans, qui est à 1500 ans après leurs histoires. Mais nous, on le sait parce qu'on l'a vu. On n'a pas de mérite, on l'a vu parce qu'on est après. Mais eux autres, il fallait qu'ils vivent ça. Imaginez-vous les Juifs au temps de Jésus, puis ils fêtaient ça, eux autres, selon leur méthode. Puis Jésus est en train de les introduire dans une nouvelle alliance par son sang. C'est annoncé dans l'Ancien Testament, cette nouvelle alliance-là, qui viendra un Messie. Puis tous les Juifs, pas tous les Juifs, mais beaucoup de Juifs attendaient le Messie. Même les Samaritains attendaient le Messie. La preuve, vous regarderez l'histoire de la femme samaritaine. Elle dit, « Je le sais que le Messie doit venir. Tout le monde le savait, puis il nous enseignera toutes choses. Tout le monde le savait. » Fait qu'il attendait un Messie, un libérateur. Un Messie, c'était un oin, un Christ. Un sauveur, un libérateur. C'est quelqu'un qui sera loin par Dieu puis qui viendra accomplir une œuvre de délivrance. Mais, au point de vue humain, il cherchait un Messie qui est délivrant de la domination des Romains. Parce que c'était les Romains qui régnaient sur tout le peuple juif. Eux autres voulaient un libérateur, au point de vue humain. Mais dans la Bible, Dieu voulait les préparer. Fait que là, il a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, avec une onction spéciale, il marchait dans l'esprit et la puissance d'Élie, un prophète de l'Ancien Testament, puis il avait une mission, il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ce gars-là, c'est un appel spécial, à part de Jésus, puis lui, j'en connais pas d'autres qui sont nés de l'Esprit avant de venir au monde. Mais la Bible le mentionne parce que ce gars-là, il avait un appel spécial, une mission spéciale. Il est annoncé dans l'Ancien Testament qu'il viendrait ce gars-là pour préparer le chemin de notre Dieu, une route de notre Dieu. Que Dieu était pour venir sur la terre puis que ce Messie-là était pour. Mais là, il ne savait pas encore qu'est-ce qu'il était pour faire. Il savait juste qu'il venait. Puis il préparait sa route, préparait son chemin. Parce qu'il y a eu un doute un petit peu plus tard, Jean. Mais c'était quoi l'essence de son message? Il était là préparé parce que c'était annoncé préparer une route pour notre Dieu. C'est ça la prophétie de l'Ancien Testament. Mais quand Jean-Baptiste prêchait, il disait au monde, « Repentez-vous, là il baptisait les gens, puis croyez en celui qui doit venir après moi. » Celui qui est plus grand que moi. Je suis pas digne de délier sa courroie de son soulier. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Là, il annonçait des choses sur Jésus, ben, sur le Messie, sans savoir qui était le Messie. Mais il connaissait Jésus, c'était son cousin. Il savait que Jésus, c'était un gars spécial, mais il pouvait pas savoir que c'était Jésus, le Messie. Puis Dieu, il a donné un signe à Jean-Baptiste. Il a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, puis qui va atterrir sur lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Il ne savait pas c'était qui, puis là, il baptisait le monde. Jusqu'au moment où Jésus est venu se faire baptiser, puis là, le Saint-Esprit est descendu. Puis dès le lendemain, il commençait à prêcher et à dire, Jean 1, 29 et 30, à 32, le lendemain que c'est arrivé, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui que j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Quand Jean a vu ça, il a su que c'était lui qui était l'agneau de Dieu, que Jésus était le Messie, le Oin, le Sauveur, le Libérateur, celui qui baptisera les gens d'Esprit Saint et de feu, puis il l'a appelé aussi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Où est-ce qu'il a pris ça, cette révélation-là?
De Dieu.
Mais il y a des versets qui en parlaient dans l'Ancien Testament. Parce que la révélation est toujours basée aussi sur les... T'as beau que Dieu me dit, là, mais Dieu me dit, mais faut-il aller vérifier dans la Bible si c'est prouvable, là. Mais on va aller lire un passage qui nous parle de cela. Dans Isaïe 53, les versets 7 à 8. Une prophétie du prophète Isaïe qui annonçait la venue de quelqu'un qui prendrait sur lui les péchés de l'humanité. Wow! Il a été maltraité. Là, je ne vous lis pas tout le texte parce que vous pourriez lire tout le chapitre au complet, puis même un peu avant l'autre chapitre. Il y a tellement de points qui parlent de Jésus là-dedans, c'est impossible que quelqu'un lit ça et qu'il ne puisse pas comprendre que ça parle de Jésus. Les points, tu les retrouves tous dans le Nouveau Testament. Quand tu lis l'histoire de Jésus, puis tu relis Isaïe 53, tu t'aperçois, c'est prophétique, on dirait que c'est le même gars qui a écrit ça. Ça dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Ah, comment se fait? Il appelle ce Messie-là, celui qui était pour être maltraité et opprimé, il l'appelle l'agneau. C'est pour ça que Jean-Baptiste lui dit, c'est l'agneau de Dieu qui vient pour ôter les péchés du monde. Il dit, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? L'agneau devait être frappé pour le péché du peuple. Tout était là dans les prophéties de l'Ancien Testament. Il s'agit juste d'être éclairé pour comprendre qu'il y a un agneau qui va être frappé, une personne qui est semblable à un agneau, parce que Jésus ne marchait pas à quatre pattes. C'était pas un agneau, mais il venait comme une brebis, quelqu'un qui suit le berger. Donc, c'est la brebis de Dieu, l'agneau de Dieu, puis qui est venu pour être maltraité, opprimé, démoli par les souffrances, puis l'angoisse, puis qui sa vie sera retranchée de la terre, puis frappé pour les péchés de mon peuple. La prophétie l'annonçait, le Messie, qui viendra payer pour la dette des péchés de tout, pas juste le peuple juif. Ça a commencé pour le peuple juif, parce que Jésus est envoyé premièrement pour les Juifs. Après ça, il est envoyé pour toutes les nations. Jésus lui-même, lors de son ministère, il a dit, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus savait qu'il venait pour donner sa vie en rançon, en paiement. Une rançon, là, c'est que tu as une prise d'otage, puis là, il demande un montant d'argent pour libérer les otages. C'est un montant d'argent-là, il faut que ça soit payé par quelqu'un. Puis nous, on n'avait pas les moyens de payer pour être libérés de nos péchés. Puis Dieu est venu payer la rançon. Il a donné sa vie comme rançon pour payer la dette que ça coûtait pour que nous, on puisse être délivrés de nos péchés. Merci Seigneur. Jésus se proposait comme étant celui qui était venu pour enlever les péchés du monde. Jean-Baptiste le reconnut. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Puis Jésus dit, je m'en viens, puis moi aussi, je le sais. Faut que je donne ma vie en rançon pour pour donner la libération à l'ensemble du peuple. Paul y enseignait cette idée-là, que Jésus était destiné à verser son sang pour permettre de sauver ceux qui auraient la foi en lui. C'est le même parallèle que le peuple d'Israël quand il était en Égypte. L'agneau devait mourir, son sang devait être versé, puis le sang récupéré et mis sur le cadrage de porte épargnait cette famille du jugement de Dieu. Le même pattern s'est reproduit, mais avec Jésus qui, lui, s'est offert comme l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie, puis a versé son sang, puis grâce à son sang, c'était pour nous pardonner. Dans Romains 3, 25, ça nous dit, « C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. » Voyez-vous? On a la foi en Jésus, mais il faut avoir un petit peu plus, la foi un petit peu plus élargie. Pas juste la foi en Jésus, c'est la foi en son sang. Il faut croire que Jésus, quand il était avec ses disciples, puis il a distribué le pain et le vin à la Sainte Cène, il dit ça, c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été donné pour vous. Prenez-en tous, c'est le sang qui permet la nouvelle alliance. C'est le sang de Jésus qui permet cette nouvelle alliance. C'est à son sang qui était pour être versé. Il faut avoir la foi en Jésus, mais il faut avoir aussi la foi que son sang a été versé à la croix. Puis Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Fait que la délivrance qu'on a, c'est une délivrance de nos péchés à cause du sang de Jésus. Puis maintenant, dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui est notre Pâque. La Pâque que le peuple juif pratiquait, il pratiquait de sacrifier un agneau une fois par année, il pratiquait cette fête-là. En souvenir, nous, c'est Jésus qui est notre Pâque. On voit ça dans 1 Corinthiens 5, 7, la fin du verset, ça dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Jésus était offert en sacrifice une seule fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de répéter cet événement-là. Il a versé son sang, c'est l'agneau de Dieu. Maintenant, c'est par la foi qu'on s'accapare de cette vérité-là, puis on y croit, on y met notre confiance que je suis sauvé maintenant à cause du sang de Jésus qui a été versé voilà 2000 ans. Jésus a été envoyé pour toutes les nations, parce que pas juste pour le peuple juif, puis il nous assure des promesses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. À cause de son sang, ça a donné à nous, les bénéficiaires, un paquet de bénédictions qu'on n'aura jamais pu trouver ça ailleurs. Ça se trouve uniquement si tu passes sous le sang. Premièrement, la première vérité qu'il faut regarder, que c'est pour quiconque, parce que c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour « Ah, ben moi, je suis plus fin que les autres, je le mérite. » Non, on ne mérite rien, mais c'est pour tout le monde. Dieu appelle tout le monde. Dans Romains 1, 16, ça dit « J'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif, premièrement, puis du grec. Fait que quiconque veut croire, peut obtenir le salut par la foi en Jésus. Gloire à Dieu. Ce qu'on reçoit dans toutes ces bénédictions, c'est comme un package deal. Tu reçois le sang, tu te couvres du sang, mais tu reçois un paquet de cadeaux de la part de Dieu. Tu reçois premièrement le pardon de tes péchés. Dans Actes 10, 43, ça dit « Tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Première chose, avait été votre liste de péchés qui s'est accumulée là, depuis que vous êtes au monde jusqu'à la journée que vous acceptez Jésus. Là. Puis là, je suis généreux de dire qu'elle est juste longue de même. Elle pourrait être peut-être pas mal plus longue que ça. Peut-être que c'est un rouleau qui est bien roulé, mais bien gros le rouleau. Tu le déroules par bout. Des péchés, on en a fait, en veux-tu, en v'là. Si quelqu'un dit que lui, il est juste, puis il n'a pas de péché, mais je regrette, le sang de Jésus ne peut pas vous aider. Il faut que tu l'avoues que tu en as fait des péchés. Il faut que tu le dises, oui, je suis pécheur, puis je suis privé de tout ce que Dieu avait à me donner. À cause de mes péchés, je ne pouvais rien avoir. Il fallait que Dieu règle premièrement la dette de mes péchés, parce qu'à la fin de la liste, c'est marqué « à payer ». Ça prend quelqu'un pour payer au bout. Puis là, il y a une deux personnes qui peuvent payer. Soit moi, je la paye, puis il n'y a pas de moyen de la payer, puis c'est les temps de feu pour l'éternité. Ça ne sera jamais assez long pour la payer. Tandis où le sacrifice de Jésus qui peut te donner ta liste et pardonner. Il roule ça, puis il jette ça à l'arrière. Il n'y en a plus de liste. Il n'y en a plus. Tu es pardonné. Ta vie est pardonnée. Mais là, après ça, fais-en plus. Si t'en refais d'autres, retourne tout de suite au pied du Seigneur pour lui demander pardon, puis lui demander que le sang de Jésus te purifie. Maintiens-toi à jour dans cette idée-là. Garde la foi. Parce qu'il y en a qui pensent qu'à partir qu'ils sont devenus chrétiens, ils sont devenus parfaits, puis ils n'en font plus de péché parce qu'ils ne demandent jamais pardon. Faut que tu continues à demander pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Ce verset-là est écrit dans 1 Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. Puis ça nous demande à nous, des chrétiens, de continuer à confesser nos péchés à Dieu pour que le sang de Jésus continue à tout laver. Parce que c'est par repentance que tu reçois cela. La foi, repentance, conversion. Bon, tu restes dans cette idée-là. Deuxième chose que Dieu nous accorde, c'est une bénédiction, c'est Actes 13, 39, c'est qu'on est déclaré comme étant des justes. Même si tu étais un injuste, un infidèle, un impur, un pécheur, à cause du sacrifice de Jésus, Dieu met sur toi la justice de Jésus. Autant que Dieu, le Père, regardait son Fils, puis voyait son Fils parfait, parce que Jésus n'a pas fait de péché. Mais quand tu te mets à croire en son Fils, puis tu lui demandes pardon de tes péchés, il te pardonne, il t'enlève ta liste. Là, tu es neutre, mais en plus de ça, là, il dit, je prends la justice de mon Fils, là je la mets sur toi. Tu es déclaré juste, pas à cause que tu es rendu vraiment un juste, tu vas travailler à cela toute ta vie, à essayer de te sanctifier, mais tu ne l'étais pas encore. Mais à partir de ce moment-là, Dieu décide de te rendre juste. Pas par tes mérites, à cause de ta foi. Tu as la foi, il te donne le pardon, puis il te donne d'être déclaré juste. Acte 13, 39. Et quiconque croit, encore n'importe qui, cela, peu importe comment tu t'appelles, tu fais partie des quiconque croit, puis aussi pas croire en n'importe quoi, croire que Jésus est mort sur la croix et qu'il a versé son sang, et croire que c'est par son sang, qui est le sang de l'Alliance, que tu obtiens ces choses. Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses que tu ne pouvais pas être justifié par la loi de Moïse. Ça te rend juste. Tu es rendu un juste. Tu marches dans la justice après cela. Il dit, celui qui est juste, c'est à quoi le verset dans l'Apocalypse que je t'ai lu un matin? Que celui qui est juste pratique encore la justice.
Et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Oui. Fait qu'il te déclare juste, il te déclare saint, mais là après ça, la suite de ta vie, c'est de marcher davantage de justice en justice, en demeurant dans la pratique de la justice. Tu cherches le royaume et la justice. Tu cherches à être juste. Tu n'y arriveras peut-être pas parfaitement dans ta vie, mais tu travailles avec Dieu, puis Dieu veut t'amener là, puis nous, on veut être amenés là. Fait que Dieu fait un œuvre pour changer ta vie.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Une autre belle affaire que Dieu nous donne dans son beau bagage de cadeaux, quand tu vas à Jésus, tu décides de te mettre sous le couvert du sang de Jésus, tu vas recevoir la vie éternelle. Dans Jean 3, 14 à 16, C'est un très beau verset. C'est quasiment le verset le plus appris par cœur. Ben, le verset 16, peut-être pas 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, parce que Dieu avait frappé le peuple d'Israël avait péché, puis Dieu lui avait envoyé une plaie dans le peuple pour les punir. Puis là, pour arrêter la plaie, il a fait un serpent en airain, puis il a montré ça à tout le monde. Puis tous ceux qui regardaient le serpent, ils étaient guéris. Dieu voulait faire un signe encore pour montrer que ça venait de lui. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comment est-ce que Jésus est élevé? C'est en étant cloué sur la croix. Le symbole du serpent, c'est un, du serpent des reins, c'est un symbole pour démontrer que le Fils de l'homme aussi devait être élevé. Puis autant que la plaie allait arrêter, à tous ceux qui regardaient le serpent étaient guéris, mais autant que ceux qui regardent Jésus sur la croix, puis qui mettent leur foi là-dedans. Jésus a été élevé, nous on regarde ça, puis on y met notre foi. Ça nous accorde quoi? Et il dit, moi vous l'aurez, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alléluia! Gloire à Dieu, quel beau cadeau! On n'avait pas la vie éternelle. On l'a à partir du moment où ce qu'on croit, qu'on met notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, son sacrifice, son sang qui était versé, c'est là que tu as la vie éternelle. Parce qu'il y en a qui pensent, « Oh, moi, j'ai la vie éternelle. Moi, je suis Dieu. Dieu est dans et partout. Je fais partie de la création, dans la nature, donc je suis un avec Dieu. » Il y en a qui se pensent Dieu sur la terre. Ils n'ont pas réalisé leur vraie position. Il y en a, c'est à cause de leur religion qui se pensent Dieu sur la terre. Ça les a montés un petit peu. Mais Dieu, il est au-delà de toute la création, puis nous, on est juste une petite poussière sur cette planète. Mais ceux qui veulent mettre leur foi dans le sacrifice de l'agneau de Dieu qui versait son sang pour sauver l'humanité, il fallait que Jésus soit élevé, qu'il le fasse de mourir sur le pendu au bois. C'était écrit aussi dans l'Ancien Testament, dans une autre prophétie qui était pour être pendu au bois. Quiconque croit en lui est la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, encore un beau quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Si vous avez l'assurance aujourd'hui d'aller au ciel, d'être dans la vie éternelle, mais c'est à cause que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre porte que cela. Pensez pas que votre religion, une religion va vous donner le ciel. Il n'y en a pas de religion qui donne le ciel. Il n'y a que le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu qui peut régler la dette de vos péchés, vous déclarer juste, vous donner la vie éternelle. On ne méritait rien. C'est tous des cadeaux additionnels. Un autre beau cadeau qu'il nous donne sous le sang de Jésus, dans Hébreux 10, le verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Quel sanctuaire qui parle? C'est la présence de Dieu. À cause du sang de Jésus, une personne non seulement est pardonnée de ses péchés, est déclarée juste, elle reçoit la vie éternelle, puis en plus, elle donne d'entrer dans le sanctuaire. D'être en communion avec l'Esprit Saint, avec Dieu lui-même. Il y a une communion qui commence, qui n'était pas possible avant. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint ne vous parlait pas. Il nous parlait, mais du dehors. Il était à côté de nous, puis il nous parle. Mais on était séparés de Dieu à cause de nos péchés. Il fallait régler ça. Le sang de Jésus règle la dette de nos péchés. Et on est déclaré juste. Maintenant, l'Esprit Saint, le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont descendus en nous, puis notre corps est devenu l'habitation de Dieu en esprit. On a un accès à la présence de Dieu par le Saint-Esprit à cause du sang de Jésus. Alléluia! Quelle belle Pâque! C'est bien plus qu'un morceau de chocolat! Puis un des derniers points que je vous mentionne, il y en aura d'autres, mais là, je ne veux pas vous tenir ici toute la journée. Une autre belle bénédiction qu'on reçoit par le sacrifice de Jésus. Dans 1 Thessaloniciens 1:10. C'est que Dieu nous délivre de la colère à venir. À cause du sang de Jésus, à cause du sacrifice de Jésus, nous sommes délivrés de la colère à venir. Il faut comprendre qu'il y a différents types de colère de Dieu. Dieu, il est en colère contre ce monde. Ceux qui ne se repentent pas, ça dit, la colère de Dieu demeure sur eux. Tandis que ceux qui sont repentis, on n'est plus sous la colère de Dieu, on est tombé sous la bénédiction. C'est un paquet de bénédictions que Dieu veut nous donner. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas, en ayant les deux pieds sur la terre, qu'on n'aura pas d'opposition ou on n'aura pas de difficulté. On n'est pas visé par les fléaux ou les déversements de la colère de Dieu dans ce monde. Est-ce que Noé était visé par la colère de Dieu lorsqu'il y a eu le déluge? Non. Mais il a fallu qu'il vive un an de temps dans l'arche, puis il a pelleté Dieu pendant un an. Il a respiré ça, lui-là. Il y en a eu des effets secondaires, des dommages collatéraux de la colère de Dieu. Ça a été pénible. Mais il a été épargné, il n'était pas visé par la colère, mais il a eu des conséquences parce qu'il est encore vivant sur la terre. C'est la même chose pour les chrétiens lorsqu'ils passeront dans la grande tribulation. On n'est pas visé par les jugements de Dieu, les sceaux, les trompettes avant que Jésus revienne. C'est des choses qui vont arriver. On n'est pas visé, on est garanti, protégé par Dieu, mais il a dit aussi que son peuple va manger. Il va être permis que les gens leur fassent la guerre aux saints et de les vains. Il va y avoir une persécution mondiale. Mais on n'est pas visé par Dieu. C'est la méchanceté humaine, les effets secondaires du jugement des humains. Ça, oui, on peut en sentir. Mais la plus pire des colères, c'est lorsque les gens vont ressusciter et vont comparaître devant le trône de Dieu, le grand trône blanc, où ce qu'ils vont avoir à rendre compte de leur parole, action, tout ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, Dieu a tout son souvenir. Les gens vont passer au jugement. Un jour, on va l'expliquer plus en détail avec des versets. Puis Dieu ne les regardera pas avec un sourire. Ceux que le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, c'est l'étang de feu pour l'éternité. Et une des phrases qu'il mentionne, « Va, maudit, dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est écrit dans Matthieu chapitre 25. Ceux qui veulent aller voir. Mais en Jésus-Christ, quand tu es sauvé, on le sait que Jésus va revenir, puis il va nous délivrer de la colère à venir. Puis c'est pour l'éternité. Jésus a parlé de ses brebis, il dit, je leur donne la vie éternelle, puis elles ne périront jamais. Nul ne va les ravir de ma main. Puis dans un autre verset, il dit, on n'ira pas en jugement, mais on est passé de la mort à la vie. C'est bénédiction, bénédiction par-dessus bénédiction Dieu veut nous donner. C'est à cause du sacrifice de Jésus. 1 Thessaloniciens 1:10, ça dit, on attend des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il y a une colère qui va venir. C'est pas pour nous, c'est pas contre nous. Ça va être déversé sur le monde. On va en subir des dommages. C'est pas, mais les vrais déversements de la colère, c'est les 7 sceaux, les derniers, les coupes, je veux dire, les 7 coupes qui sont les derniers. C'est eux autres qui sont déversés, puis en eux contiennent la colère de Dieu. Ça, c'est après la 7e trompette. Là, la 7e trompette, Jésus vient chercher son Église, puis après ça, il déverse ses coupes. C'est les coupes de la colère de Dieu qui vont s'abattre sur la terre. On va avoir des éclaboussures avant qu'ils reviennent, mais qu'ils reviennent, il va déverser ses coupes, puis là, ça va être grave sur la terre. Des jugements de Dieu comme qui ne s'est jamais vu Puis ça ne frappera pas juste un peuple, c'est la grandeur de la planète. Tous ceux qui ont reçu la marque de la bête vont être sous ce jugement-là. Tous ceux qui n'étaient pas sous le sang de Jésus, bien entendu, mais sur ceux qui ont reçu la marque de la bête, parce qu'il y en a qui ont commencé en marchant sous le sang de Jésus, mais ils vont recevoir la marque de la bête, mais ils vont être jugés comme le reste du monde. On ne touche pas à ça, on reste sous le sang de Jésus, puis on attend patiemment, puis avec, on a hâte. Avez-vous hâte que Jésus revienne?
Oui.
On a hâte que Jésus revienne, parce que ça va être un jour de délivrance, un jour, comme s'il fait longtemps qu'il est annoncé, là, qu'on l'attend patiemment, puis on a hâte que ça arrive. Puis merci Seigneur de ce qu'il va faire cette journée-là pour venir nous chercher. Prions. Seigneur, je te remercie de ton sacrifice à la croix. Tu es l'agneau de Dieu, l'agneau de la Pâque, notre Pâque. C'est toi qui, par ton sang, qui nous assure plein de belles promesses d'avoir le pardon de nos péchés, d'être déclaré juste, d'avoir la vie éternelle, d'avoir un libre accès dans ton sanctuaire, dans la communion avec ton esprit, puis aussi d'être épargné de la colère à venir. Seigneur, garde-nous dans la foi, en la vérité. Donne à chacun de persévérer dans la foi, en ton sacrifice. Enlève de nos cœurs tout orgueil, toute pensée qu'on se pense correct, puis qu'on continue à s'accrocher à toi, puis aussi à vouloir tout te donner. Tu mérites notre vie. Prends-la, on te la donne, puis on veut te suivre, on veut te servir dans ce que tu nous demandes. Conduis-nous, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen.